Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour deux heures d'infos avec à la une cette chaleur écrasante, des records pour un mois de mai un peu partout en France. Peggy Broche, vous avez les yeux rivés sur le thermomètre pour nous aujourd'hui. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Les chiffres s'affolent.
Eh oui, ça grimpe encore d'un cran. Allez, je vous donne trois records pour commencer. À Toulouse, il a fait 33,4 degrés. À Montélimar, 33,8 degrés et la température maximale. Aujourd'hui, c'était pour Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche avec 34,7 degrés. Et je rappelle que c'est le 38e jour consécutif avec des températures au-dessus des normales.
Et conséquence de ce coup de chaud, des noyades en série. Trois morts, un disparu ces derniers jours en Gironde. RTL a assisté cet après-midi à un sauvetage absolument incroyable sur une plage du département. On vous raconte tout dès le début de votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À suivre aussi une condamnation pour violence conjugale qui a fini par avoir raison de la candidature de Jérôme Peyrat pour la majorité en Dordogne. L'expulsion de 34 diplomates français annoncée aujourd'hui par la Russie. Et puis le joueur parisien Idrissa Gueye, soupçonné d'homophobie, prié de s'expliquer. Les courses dans le Quintet Plus à Vincennes, il fallait jouer le 13, le 2, le 7, le 4 et le 8.
Dans un quart d'heure, retour sur la médiatique affaire du Pont Neuf à Paris. Deux frères à bord d'une voiture tués par un policier. Ils se seraient soustraits à un contrôle. C'était il y a trois semaines. Pour la première fois, l'avocat des familles des victimes, Eddy Arneton, on prend la parole et c'est sur RTL. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous de notre dressing. Nous possédons en moyenne 17 t-shirts, mais la moitié reste au placard et n'est jamais portée. 18h40, on va défaire le monde, l'info autrement avec Le Mans T-shirt, Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on vous fait voler avec Top Gun. C'est l'événement sur la croisette. Du coup, nous, on a contacté un vrai pilote pour qu'il nous raconte toutes les sensations d'un vol à 2000 à l'heure. Au menu également, des Bretons qui jubilent et un festival de musique qui nous tient tout particulièrement à cœur.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et les polémistes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Trois morts, un disparu depuis dimanche sur la côte atlantique et aujourd'hui encore une noyade évitée de peu sous les yeux de RTL à Lèche-Cap-Ferret.
Plage du Grand Croc précisément, forcément très recherchée avec la chaleur actuelle. Vous y êtes depuis ce matin pour RTL. Philippe Demaria, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir Julien.
Et vous avez donc assisté tout à l'heure à un sauvetage in extremis, un noyade évité grâce à la vigilance d'un bénévole.
Exactement, il s'appelle Stéphane Galissaire du club de surf de la Presqu'île. Il a décidé en l'absence de surveillance organisée d'être là vigie du Grand Croc avec son énorme planche de sauvetage de 30 kilos. Il s'élance dans des vagues énormes cet après-midi. Il rejoint non sans mal un nageur en détresse. Le jeune est à deux doigts de couler. Il perd connaissance. On voit Stéphane le réanimer au large. Au bout de 20 bonnes minutes, il parvient à le ramener sur la plage. Le sauveteur, vous allez l'entendre, est exsangue.
J'en ai fait 6 hier. Aujourd'hui, j'en ai marre.
Comment vous vous sentez là? C'était très très juste quand même, non?
Je suis en colère. Une semaine qu'on sait que avoir deux jours super dangereux, on n'arrive à avoir personne. Hier, j'en ai fait 6 comme ça. Il y en a 2 qu'on n'a pas pu sauver. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a encore.
Alors, le rescapé est pris en charge par les pompiers, direction l'hôpital. Cyril, son ami, nageait en sa compagnie lorsqu'il a été emporté vers le large.
On était à côté. C'était très rapide. Il a voulu aller un tout petit peu plus loin pour prendre une meilleure vague et puis il s'est fait emporter. J'ai vu que ça commençait à m'emporter, donc je suis sorti et j'ai essayé d'aller prévenir les secours parce qu'il me faisait des signes. Mais bon, j'ai pas été plus rapide.
Alors à la mi-journée, la préfecture de Gironde a déconseillé la baignade sur les plages du département, mais le message, vous l'avez constaté Philippe, il a encore du mal à passer.
Oui, la mairie de La Teste a bien posé des panneaux appelant la vigilance et même des bénévoles qui sensibilisent directement les baigneurs à leur arrivée à la plage.
Attention à vous.
Vous avez pris connaissance un petit peu des dangers de la plage aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui.
Ah ouais.
Voilà. Hier, il y a eu 2 décès malheureusement sur cette plage. La personne a été emportée, elle avait de l'eau au genou. Donc évitez de vous mettre à l'eau. Okay. C'est vraiment déconseillé de se mettre à l'eau aujourd'hui.
Oui, okay. Okay.
Mais l'envie de fraîcheur est beaucoup trop forte. Écoutez ce couple qui s'est baigné intégralement.
Bon, on n'a pas été loin, nous. On est resté là au port où c'est qu'on est à pied.
Pourquoi?
Parce qu'on nous a dit que c'était dangereux.
Mais c'est dangereux, effectivement, il y a pas mal de courant. Ça tire, hein, on est obligé d'appuyer les pieds sur le sable fort, sinon on est vite emporté, quoi.
Alors les spécialistes comme Stéphane, la vigie du Grand Crau, demande le déploiement de secours sur plage hors saison. Le sauveteur bénévole du Grand Crau a repris sa surveillance sur sa planche.
Philippe de Maria à Lège-Cap-Ferret pour RTL, scène absolument incroyable à laquelle vous avez assisté aujourd'hui. Soyez très prudents si vous êtes en ce moment dans le sud-ouest et que vous êtes pris d'envie de baignade. On rappelle que les coefficients de marée sont très forts en ce moment et donc les courants le sont également.
L'émotion et l'incompréhension d'une femme à présent, celle de Véronique Monguillot. Elle est la veuve du chauffeur du bus mortellement agressé en juillet 2020 à Bayonne par deux passagers qu'il voulait contrôler. Deux hommes de 24 ans que le juge d'instruction a décidé cette semaine de renvoyer, non pas devant les assises comme le demandait le parquet, mais devant une cour criminelle. Les faits ayant été requalifiés d'homicide volontaire aggravé en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Décision incompréhensible pour Véronique Monguillot.
En fait, c'est le monde à l'envers. Pour mes filles et pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas le procès des accusés, c'est le procès de mon époux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer. C'est faux. Il y a une violence qui s'était passée ce jour-là. C'était terrifiant, terrible. Extrême violence au niveau de la tête. Et la tête, c'est le moteur du corps humain. Tout le monde le sait. Sans tête, on ne fait rien, on n'est rien. Et aujourd'hui, on requalifie ça. Mais c'est impossible. Il y a une volonté de tuer, monsieur. Je suis désolée. On trouve le temps trop long, bien évidemment. Hein. Ça va faire 2 ans au mois de juillet. Les jours sont très compliqués, les jours sont très longs. Les nuits sont très courtes. Et puis, on est en suspension, vous savez, monsieur. Tant que le procès ne sera pas passé, tant qu'ils ne seront pas punis, on ne peut pas vivre. Heureusement que j'ai 3 filles vraiment très proches de moi qui m'aident à être debout. Mais c'est une survie au quotidien. Ce n'est plus une vie.
Véronique Monguillot, jointe pour RTL par Nicolas Burnand. Le parquet a fait appel du renvoi devant une cour criminelle. La justice a maintenant 4 mois pour trancher.
RTL Soir.
Sa candidature commençait à devenir embarrassante pour la majorité. Le marcheur Jérôme Perra renonce finalement à se présenter aux législatives en Dordogne.
Cet ancien conseiller de l'Élysée devait représenter la coalition présidentielle, mais devant la polémique liée à sa condamnation pour violence conjugale il y a environ 2 ans, il a décidé de retirer sa candidature, Valentin Boisset.
Absolument, une condamnation à 3000 euros d'amende pour violence volontaire sur son ex-compagne. Son ex-femme explique en 2020 aux enquêteurs avoir subi des violences dont une tentative d'étranglement. Elle fait elle-même constater ses blessures. Résultat, 14 jours d'ITT. Dimanche, des militants en marche locaux en Dordogne appelaient à son retrait dans un communiqué. Jusqu'à cet après-midi, il comptait être candidat, mais chez nos confrères de France Info ce matin, son propre patron, Stanislas Guérini, a voulu le défendre.
C'est un honnête homme. Je ne crois pas capable de violence sur les femmes. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu, que ça n'est pas le cas. Sinon, jamais, jamais, j'aurais permis cette investiture.
Résultat, une vague d'indignation. Jérôme Perra se retire, mais pas vraiment pour des raisons morales. Il explique ne pas vouloir faire de tort à sa famille politique et invite à regarder ce qui est reproché aussi à sa femme, à savoir une condamnation pour des appels malveillants et non des violences comme lui. Il n'y a donc ce soir plus aucune investiture de la majorité dans cette circonscription de Dordogne.
Un dossier réglé, en tout cas, précision signée Valentin Boisset pour RTL. Avant les législatives, la constitution du gouvernement, il reste maintenant 4 jours à l'exécution pour choisir ses ministres.
Alors, légalement, un conseil des ministres doit se tenir avant la fin de la semaine. Donc, les consultations se poursuivent, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, pour consulter, Elisabeth Borne consulte des pontes de la majorité, François Bayrou cet après-midi, Édouard Philippe ce matin, mais aussi Richard Ferrand, Christophe Castaner, Stanislas Guérini, mais pas que. Elle a eu au téléphone un de ses prédécesseurs de gauche, Bernard Cazeneuve. Elle a parlé au président du Sénat, le LR, Gérard Larcher. La consultation, c'est sa méthode, souligne un de ses collaborateurs. Il n'est pas prévu qu'elle retourne à l'Élysée aujourd'hui. Elle y a passé beaucoup de temps avec Emmanuel Macron hier. Des clichés pris par la photographe du président en attestent. Ils ont déjeuné puis dîné sur la terrasse du palais, entourés de leurs deux principaux collaborateurs. La liste du gouvernement devrait la connaître pour la fin de semaine, d'ici vendredi normalement, avec un premier conseil des ministres dans la foulée. Et puis il faudra que la première ministre trouve le temps d'aller à Vire, la circonscription où elle se présente au cours du week-end. Elle l'a promis à son suppléant et elle a besoin d'y faire son trou, même si elle a des attaches dans la région.
Une nouvelle fumée blanche attendue, donc, d'ici la fin de la semaine. Merci Marie-Bénédicte Allaire.
Allez, une pause dans ce journal et dans un instant, dans RTL Soir, des diplomates français expulsés de Russie. Moscou hausse le ton. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier.
Salut.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal, 18h10, vous écoutez RTL. Ils ont 2 semaines pour plier bagages. Moscou a annoncé tout à l'heure l'expulsion de 34 diplomates français.
Réponse à l'expulsion de diplomates russes décidés dans la foulée du déclenchement de la guerre. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
Est-ce qu'on sait précisément qui est visé?
Alors pour l'instant, non. On ne sait pas si ce sont des postes, on va dire, plutôt politiques ou des profils plus techniques qui sont concernés parmi les 200 agents qui travaillent à l'ambassade de France en Russie. C'est un signe en tout cas que les relations diplomatiques entre Paris et Moscou sont au plus bas, mais ne sont pas rompues. Le ministère des Affaires étrangères français a dénoncé ces expulsions. Le Quai d'Orsay a expliqué qu'elles ne reposaient sur aucun fondement légitime. Les diplomates russes expulsés par Paris en avril étaient accusés, eux, d'être des espions. Mais la France n'est pas le seul pays à devoir faire rentrer ces diplomates au bercail. C'est aussi ce que vont devoir faire l'Espagne et l'Italie. Et le courroux de Moscou ne touche pas que les ambassades. La radio-télévision canadienne CBC doit fermer son bureau moscovite pour cause de propagande anti-russe, explique Moscou. Les accréditations et les visas de ces journalistes sont annulés, mais il s'agit là aussi d'une mesure de rétorsion après l'interdiction de diffusion de la chaîne pro-Kremlin Russia Today au Canada.
Et Paris, Rome et Madrid, en tout cas, ont condamné cette décision de Moscou. L'Europe qui, par ailleurs, a présenté aujourd'hui un plan à 210 milliards d'euros pour développer à la fois énergie renouvelable et économie d'énergie pour limiter sa dépendance à la Russie. Une dépendance aux énergies fossiles qui nous rapproche de la catastrophe, dit le patron de l'ONU, qui souligne que 4 marqueurs clés du changement climatique ont battu des records l'an dernier. Concentration de gaz à effet de serre, élévation du niveau de la mer, température et acidification des océans.
Après les interrogations, après les critiques de la classe politique notamment, l'une des instances du foot s'est saisie aujourd'hui enfin du dossier Idriss Agueye.
Joueur du PSG qui s'est une nouvelle fois fait remarquer par son absence lors de la journée de Ligue 1 dédiée à la lutte contre l'homophobie. Bonsoir Eric Silvestro.
Bonsoir.
Cette instance, c'est le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de foot qui lui demande donc de s'expliquer.
Oui, un conseil de 7 membres présidé par l'ancien arbitre et avocat Patrick Anton et dans lequel officie notamment l'ex-international Luxonor ou l'ancien président du Stade Rennais Frédéric de Saint-Cernin. Le CNE a adressé un courrier à Idriss Agueye le sommant de clarifier rapidement sa position. De deux choses l'une, est-il écrit soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. La lettre encourage d'ailleurs même le Sénégalais à prendre une photo de lui portant le maillot floqué d'un numéro aux couleurs arc-en-ciel. Soit ces rumeurs sont exactes, poursuit la missive. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise. En refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires et le refus de l'autre.
S'il ne répond pas, Idriss Agueye, est-ce qu'il peut être sanctionné?
Non, en tout cas pas par le Conseil national de l'éthique qui nous a répondu ne pas vouloir expliquer son initiative. Il faut savoir que depuis 2015, actant un échec et une confusion des missions du CNE et de la commission de discipline, la fédération a en effet privé celui-ci de tout pouvoir disciplinaire, le transformant donc de facto en un conseil des sages chargé de prévention, de pédagogie et de recommandations.
Au moins c'est clair. Ouais. Merci Eric Silvestro. Et merci à vous, Marion Calais. À tout à l'heure. Le temps pour demain. Donc, on a battu des records de chaleur pour un mois de mai dans plusieurs villes aujourd'hui. Cher Peggy, est-ce que ça va se poursuivre demain, cette canicule?
Demain matin, les températures seront en hausse, du coup, parce qu'il a fait très chaud cet après-midi. Donc, c'est vrai qu'on aura, alors, près de la Manche, de 9 à 16, là, ça ira. Mais sinon, de 16 à 19 degrés ailleurs. Il fera déjà 19 demain matin à Paris, par exemple. Mais les maximales, du coup, vont baisser dans l'après-midi, surtout à l'ouest. 17 à Cherbourg, jusqu'à 33 à Clermont-Ferrand, mais plus que 25 à Paris, il a fait 29 aujourd'hui, 25 à Paris, à Montpellier, à Nantes, 29 à Bordeaux et Tarbes, 31 à Montélimar, Mulhouse et 32 à Lyon. Il fera encore très chaud à l'est où le soleil va dominer à nouveau et on aura des orages sur la partie nord du pays et ces orages vont se décaler du nord-ouest au nord-est dans la journée. Dans le sud, après dissipation des grisailles matinales, il fera très beau et chaud encore, on n'aura pas d'eau.
Merci Peggy. Dans un instant, une exclusivité RTL dans l'affaire du Pont Neuf à Paris. Affaire très médiatisée, 2 frères à bord d'une voiture tué par un policier alors qu'il tentait de fuir un contrôle. C'était il y a 3 semaines. Pour la première fois, l'avocat des familles des victimes, Eddy Arneton, s'exprime et c'est sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, RTL Soir vous accompagne donc et RTL se penche maintenant sur l'affaire du Pont Neuf à Paris. Affaire très médiatisée ces dernières semaines. Deux hommes, deux demi-frères, Fadigui Boubacar, 25 et 31 ans, à bord d'une voiture tuée par un policier alors qu'il tentait de se soustraire à un contrôle. C'était le 25 avril dernier. Un autre passager a été blessé. Notre invité ce soir est Teddy Arneton. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocat de la famille des victimes. Vous vous exprimez pour la première fois sur ce dossier. Avant d'échanger ensemble, on va rappeler ce que l'on sait des faits à nos auditeurs. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
La scène se déroule donc en pleine nuit au cœur de Paris.
Oui, et cette nuit-là, un équipage de 5 policiers qui patrouillent sur l'île de la Cité s'intéresse à une voiture garée à contresens de la circulation. Ils soupçonnent ses occupants de se livrer à une transaction de produits stupéfiants. Les policiers se positionnent autour du véhicule. Trois hommes sont à l'intérieur. La chef d'équipage ouvre la portière. La voiture démarre. Le fonctionnaire qui se trouve face à la voiture dit s'écarter juste à temps pour ne pas être percuté. Le policier de 24 ans qui tient le fusil d'assaut ouvre le feu, tire une dizaine de cartouches. Il atteint mortellement le conducteur et son passager. Des impacts sont relevés à l'avant, mais aussi, selon les premières constatations, sur d'autres parties du véhicule, ce qui pourrait laisser penser qu'il a continué à tirer alors que des vides policiers n'étaient plus en danger.
Alors, on l'a dit, l'affaire a été très médiatisée et pour cause, le policier en question a été mis en examen.
Oui, mis en examen pour homicide volontaire. Le juge d'instruction a estimé, avec les premiers éléments en sa possession, qu'il y avait des indices laissant penser que les tirs n'étaient ni nécessaires ni proportionnés, d'où le fait que la légitime défense n'a pas été à ce stade retenue. Cette décision a fait immédiatement réagir une partie des policiers. Le syndicat Alliance a appelé à une grande manifestation à Paris. 1000 personnes se sont réunies en soutien à leurs jeunes confrères. Rappelons que le policier qui a ouvert le feu est aujourd'hui libre, mais soumis à un contrôle judiciaire strict. Il n'a entre autres plus le droit de porter une arme et donc assigné au sein de la police à des tâches administratives.
Du côté des victimes maintenant, vive émotion des proches qui ont défilé il y a deux semaines.
Oui, la famille a organisé une marche blanche dans le 20e arrondissement de Paris. Plusieurs centaines de personnes ont défilé avec un mot d'ordre, apaisement et recueillement pour Boubacar et Fadigui.
Merci Guillaume. Eddy Arneton, je reviens vers vous. Vous êtes l'avocat des proches des victimes, des proches qui, on l'imagine, ont besoin de réponses, ont besoin de comprendre.
Oui, ce sont des proches qui sont très dignes. Vous avez pu le remarquer, il y a eu une marche qui s'est déroulée sans slogan anti-police. Ils ne veulent qu'une seule chose aujourd'hui, c'est la manifestation de la vérité. Donc oui, ils attendent un certain nombre de réponses. Nous sommes au début de cette procédure, c'est une instruction qui démarre. Nous avons des faits qui sont constants, à savoir qu'il y a 10 tirs, environ 10 tirs qui ont été infligés à ces deux jeunes hommes. Et deux personnes sont décédées. Ça, ce sont des faits constants. Ces faits constants ont abouti à une mise en examen pour homicide volontaire, c'est-à-dire pour meurtre.
Qui est donc justifié pour vous, selon les éléments que vous avez en main ?
À mon sens, lorsque l'on tire une dizaine de fois sur des individus et qu'ils meurent, l'intention de tuer est caractérisée. Il n'y a pas de sujet, à mon sens, sur cela. Je crois que le juge d'instruction a fait montre d'un certain courage. C'est le courage de constater l'évidence. L'évidence que l'intention de tuer n'est pas contestable. Et puis, il y a aussi une forme de clémence, puisque malgré cette mise en examen, ce fonctionnaire de police n'a pas été placé en détention provisoire. Je crois qu'il y a des questions qui doivent être posées dans cette procédure. Comment explique-t-on qu'un jeune homme de 24 ans se retrouve dans les rues de Paris avec un fusil d'assaut? Et de ce que j'ai cru comprendre, il avait suivi une formation de 2 jours. Comment on explique cela? Ce sont des questions qui doivent se poser. Oui. Il y a des faits constants et puis il y a d'autres faits. Il y a une version policière qui est avancée. J'ai entendu beaucoup d'affirmations de votre côté. Soustraction à un contrôle de police. Et j'ai entendu beaucoup de choses. Ce sont des versions, c'est ce que j'appelle
des
versions.
Ça veut dire que pour vous, vos clients ne tentaient pas de se soustraire au contrôle? La voiture ne fonçait pas sur le policier?
Mes clients, c'est la famille des deux personnes qui sont décédées. Les personnes qui sont décédées, je ne les représente pas. Néanmoins, je dis la chose suivante. Ce dont vous parlez, c'est la version policière. Et d'ailleurs, les articles de presse nous parlent de compte-rendu d'intervention. Et les compte-rendus d'intervention, ils viennent nécessairement de la police. Donc vous avez une version policière, il faut avoir l'humilité de dire qu'au début d'une procédure, on ne peut pas tout savoir. Donc il y a des questions qui se posent sur la volonté de fuir. Est-ce qu'elle existe? Le positionnement des fonctionnaires de police sur les tirs en question. On sait qu'il y a des tirs au niveau du pare-brise, mais aussi sur la vitre latérale. Donc il y a des questions qui se posent et nous
donc
attendons un certain nombre de réponses.
Plusieurs salves de tir d'après les éléments.
Oui, il y a eu une salve de tir. Et c'est pour ça aussi que la qualification de meurtre est totalement justifiée, monsieur.
Vous avez parlé de Clémence tout à l'heure. Le policier mis en examen, effectivement, on l'a dit, ne peut plus porter une arme, mais il continue de travailler. Il n'a pas été placé en détention. Est-ce que vous comprenez cette clémence?
Écoutez, c'est une clémence qu'on arrive à comprendre dans le sens où ça touche un fonctionnaire de police. Et on sait qu'il y a une forme de clémence pour les fonctionnaires de police. Car on se trouverait dans un autre dossier avec quelqu'un qui a tiré 10 fois sur une autre personne. Naturellement, que cette personne serait placée en détention provisoire. Donc, le positionnement de certains fonctionnaires de police et notamment du syndicat qui a appelé à une manifestation est pour le moins surprenant parce que la justice pour l'heure fonctionne totalement normalement, il faut quand même le constater.
Vous avez parlé de ce syndicat de police, Alliance en l'occurrence, qui a appelé à manifester pour défendre ce gardien de la paix donc de 24 ans qui est mis en examen. Le slogan à l'époque, se faire tuer ou se faire condamner. Et puis il y a eu aussi ce témoignage sur RTL d'un policier ami du gardien de la paix qui a tiré. Je vous propose de l'écouter.
Malgré sa jeunesse, c'est quand même une personne réfléchie. Quand il y a eu des attaques au couteau ou des mecs menacés avec des armes par destination, il n'a jamais sorti son arme. Il prenait toujours son bâton. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'il y a la présomption de culpabilité avant la présomption d'innocence.
Présomption d'innocence, présomption de légitime défense aussi, c'est ce que réclament les syndicats de police. C'est une revendication qui vous dérange, vous, l'avocat?
Moi, j'ai un mandat, je représente une famille qui est dans la douleur en ce moment. Pour moi, ceci est un débat politique, mais personnellement, je considère que c'est malvenu de réclamer une présomption de légitime défense parce que c'est presque un permis de tuer qu'on offrirait aux fonctionnaires de police. La légitime de défense, c'est naturellement à ce que oppose tout fonctionnaire de police lorsqu'il commet un acte violent. Il explique toujours que c'est légitime. Donc il doit se défendre et il n'y a pas de raison pour qu'on présume, avant même le moindre acte, ce fonctionnaire de police est légitime à soit tirer sur quelqu'un, soit le violenter. Cela n'a guère de sens pour moi.
On s'interroge, pour revenir sur les faits de cette nuit du 24 au 25 avril, sur la raison pour laquelle cette voiture a démarré. Est-ce que d'après les éléments que vous avez, parce qu'on sait que les deux frères à l'intérieur de la voiture avaient un casier judiciaire, Guillaume l'a dit, les policiers à cet instant expliquent qu'ils soupçonnent un trafic de drogue à l'intérieur du véhicule. Est-ce que vous savez si ces personnes étaient dans l'illégalité à ce moment-là?
Déjà, quand vous dites « on sait qu'ils avaient un casier judiciaire », ça, moi, je ne peux pas vous le confirmer, puisque dans la procédure, pour l'heure, je n'ai pas le casier judiciaire. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être reçu des informations que vous n'auriez pas dû recevoir, et j'imagine qu'elles proviennent de services de police quelconques. En tout cas, à l'heure actuelle, moi, je ne peux pas vous confirmer ce point. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au début de l'instruction. L'instruction devra déterminer tous ces éléments-là. Mais s'il s'agit de nous faire croire que parce qu'il y aurait une activité illégale, que cela légitime qu'on tue deux personnes, j'affirme que cela n'est pas possible. Pour certaines personnes, ce serait peut-être d'une logique implacable. Si vous avez en face de vous un délinquant ou quelqu'un qui agit pas correctement, il peut mourir. À mon sens, nous sommes dans un état de droit et quelqu'un qui commet un acte illégal doit être interpellé. Donc on ne tire pas sur des individus dans un véhicule.
Merci Eddy Arnoton, avocat des familles de Fadjigi et de Boubacar, tués sur le pont Neuf à Paris le 25 avril dernier par un policier, d'avoir choisi RTL pour vous exprimer pour la première fois sur ce dossier ce soir. Merci d'avoir été notre invité.
Je vous remercie de votre invitation.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
Et RTL Soir continue dans un instant après une très très courte pause. Tout autre chose, vos dessous de l'actu, les dessous de votre dressing. Les Français ne portent que la moitié des t-shirts qu'ils ont dans leur placard. Pourquoi autant de vêtements dans nos penderies? On va s'interroger. Puis laissez-vous tenter dernière. Ça y est, c'est parti. Direction Cannes avec la montée des marches du nouveau Top Gun. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier.
RTL. Bonne fin de journée, vous écoutez RTL 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et comme chaque soir, à cette heure-ci, pour ceux qui ont raté, ça peut arriver, le journal de 18h vous rappelle les grands titres de l'actualité. Et on commence avec le temps, avec vous, Peggy, avec des records de chaleur aujourd'hui pour
oui,
un mois de mai.
Exactement, Julien. Par exemple, Toulouse a égalé son record du 30 mai 2001 avec 33,4 degrés aujourd'hui. À Montélimar, il a fait 33,8 degrés et la température maximale était pour le Cap Ferret avec 35 degrés. Je rappelle que c'est le 38e jour consécutif avec des températures au-dessus des normales. Et pour demain, un temps lourd et orageux au nord, bien sec et ensoleillé au sud, mais les températures vont baisser un peu à l'ouest. Elles seront plus respirables, mais ça restera bien élevé à l'est.
Les autres titres à la une, Marion.
Il était au cœur de la polémique, candidat de la majorité malgré une condamnation pour violence conjugale. Jérôme Perra renonce finalement à se présenter aux législatives en Dordogne. Le premier procès en Ukraine pour crime de guerre, accusé d'avoir abattu un civil fin février. Ce soldat russe a plaidé coupable ce matin. Et puis cette vente record à Paris pour un dessin de Michel-Ange réalisé au début de sa carrière. Il a été adjugé 23 millions d'euros.
Oui, quand même. Merci, Marion.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir de votre penderie avec cette étude Kantar qui fait réfléchir sur le shopping, sur la façon dont nous nous habillons. Les Français possèdent en moyenne 17 t-shirts, plus ou moins, Peggy ?
Plus.
Mais ils ne portent que la moitié d'entre eux, c'est aussi votre cas ?
Moins,
d'accord. Parce que les autres, ils restent en boule au fond du dressing et ils ne voient jamais la lumière du jour. Bonsoir Gauthier de Lombugard.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous avez enquêté pour RTL, vous avez fouillé des placards cet après-midi.
Oui, enquête dans la penderie de Christophe. Ce contrôleur SNCF m'a accueilli tout à l'heure dans son petit pavillon de l'Essonne.
Voilà la pile de t-shirts avec des t-shirts plutôt ados pour certains. Madame voudra que je change un peu. Et justement, j'ai cette mauvaise habitude de prendre au-dessus de la pile.
Donc voilà. Là, il y a combien de t-shirts ? Je sais pas, une vingtaine une...
Oui, c'est ça, il y a une vingtaine. Alors, on a les t-shirts, on va dire les t-shirts de nuit, plutôt basiques, voire des t-shirts publicitaires qui ont été récupérés. Puis après, les t-shirts qu'on met tous les jours.
Vous en mettez combien sur tout cela ?
4-5 sur la totalité. Donc, il y en a qui restent vraiment tout en bas. En fait, on rachète, mais on jette pas. Et
celui-là, il est dans le placard depuis combien de temps ?
Dans le placard, depuis 94, je pense que je l'ai.
Ah ouais, ça
il
fait...
Il n'est pas trop abîmé, hein, donc il n'a pas dû être remis souvent. Peut-être un jour, je me dis, ouais, je vais peut-être perdre un peu, je vais pouvoir le remettre, quoi.
Dans le placard depuis 30 ans, vous imaginez, alors que Christophe achète des t-shirts neufs chaque année.
Gauthier, cette étude et le comportement de Christophe, comme le nôtre, quelque part, il interroge notre façon de consommer, ce shopping un peu compulsif, ce n'est pas franchement responsable.
Absolument, et les chiffres sont affolants. 92% des Français privilégient l'achat d'un t-shirt neuf plutôt que d'occasion. William Ovette est le fondateur d'Asphalt, la marque à l'origine de cette étude.
Chaque acheteur du t-shirt en achète 5 par an. C'est quand même énormissime. Le coût d'achat moyen, c'est de 11,60 €. Donc ça dit à la fois qu'on en produit sans doute beaucoup trop, on en achète beaucoup trop, et qu'on en achète potentiellement des qui sont pas très bonne qualité.
C'est en fait tout l'industrie textile qui pose problème avec une surproduction et donc une surconsommation de vêtements. Des milliards de robes, chemises ou jeans neufs vendus chaque année. Les conséquences sont dramatiques. Manon Duval de l'ONG Oxfam.
Sur le plan environnemental, les Nations Unies estiment que 8 à 10% des émissions mondiales de CO2 sont dues à l'industrie textile et à son activité. Pour ce qui est du volet social, les niveaux de salaire des personnes qui confectionnent justement nos t-shirts sont bien souvent inacceptables. Et par exemple, sur un modèle de t-shirt qui est vendu 29 €, en Europe, le salaire de l'ouvrière ou de l'ouvrier qui l'a fabriqué est de seulement 18 centimes.
Alors parmi les solutions, Julien, à notre échelle en tout cas, il faut par exemple privilégier les achats de seconde main, les vêtements d'occasion.
Ça fait réfléchir en tout cas les dessous de nos dressings, de nos achats de t-shirts avec Gauthier de Lombugard pour RTL. Merci Gauthier.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière. Vivez le 75e Festival de Cannes sur RTL.
Et effectivement, dans Laissez-vous tenter dernière, on file une fois de plus sur la croisette. 75e Festival de Cannes et un événement ce soir. La montée des marches de l'équipe de Top Gun 2. Patrouille de France attendue dans le ciel. Tom Cruise sur le tapis rouge. Laurent Marsic, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous êtes au plus près de ce tapis. Est-ce que Maverick est arrivé ?
Pas encore. Pour l'instant, on a droit à quelques pas de danse. D'Omar Sy qui est venu vous présenter ici, acteur et producteur de Tirailleurs, qui est projeté dans la sélection Un Certain Regard. Mais alors, Tom Cruise, lui, est arrivé vers 15h30. On a vu se poser un hélicoptère à l'arrière du Palais du Festival. Et puis, grâce aux écrans géants installés là où je me trouve, c'est-à-dire sur le tapis rouge, on a pu suivre la progression de la star et l'équipe du film sur le toit terrasse où l'attendait une bonne centaine de photographes. Et puis, il a enchaîné les selfies avec la police, notamment. notamment, et puis avec 3 minutes de retard parce que tout ça est chronométré, il s'est engouffré dans le palais des festivals.
Oui, c'est une venue qui m'a vraiment réglé au millimètre, non ?
Oui, alors c'est effectivement, tout est réglé au millimètre, tout simplement parce que il y a un hommage particulier qui va être rendu au héros de Top Gun, un hommage aérien par la patrouille de France basée à Salon de Provence. Pour vous dire, à partir du moment où Top Gun va poser le pied sur le tapis rouge, les 8 pilotes de la patrouille de France seront prêts à décoller depuis leur base de Salon de Provence. Ils ont 155 km à vol d'oiseau à parcourir jusqu'ici, et quand Tom Cruise sera au pied des marches, devant la première marche, il y a un top départ qui sera donné. L'acteur aura 6 minutes pour gravir les 24 marches du palais. Ouais, et au moment où il posera donc le pied sur la dernière marche, eh bien, la patrouille de France survolera la croisette et la baie en formation diamant, et puis ils lâcheront évidemment les fumées aux couleurs du drapeau français.
Génial.
Et la patrouille a d'ailleurs effectué un vol préparatoire début mai au-dessus de Cannes. Théoriquement, il y a deux passages qui sont prévus avec un petit écart de 2 minutes à peine.
Plus tôt dans l'après-midi, Tom Cruise, il a donné une masterclass, c'est ça ?
Oui, exactement, devant 1000 personnes, journalistes et publics. Stéphane Boutsock, ce chanceux, y assistait avec un Tom Cruise, vous allez l'entendre, ravi d'être à Cannes, 30 ans qu'il n'était pas venu.
Après tout ce que nous avons traversé, c'est tellement bon d'être ici dans une salle de cinéma avec vous, de voir vos visages. C'est un privilège, ça compte beaucoup pour moi, donc merci beaucoup.
Voilà, on attend maintenant Tom Cruise sur le tapis rouge. On se retrouve à 19h, j'espère, avec la patrouille de France en direct.
On va essayer de la suivre en direct. Après, elle passe très vite, hein, la patrouille de France. On va essayer d'être synchro. Charles-Laurent. Et en attendant ce passage en guise d'apéritif, eh bien, on va défaire les avions de chasse dans un instant. On va vous raconter les sensations des pilotes à plus de 2000 km/h. Top Gun en vrai, en quelque sorte, avec l'équipe dont défait le monde, Cyprien Mavrixini, Guillemette Franquet, Nerissa et Mani. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Vous êtes en train de prendre place dans le cockpit de RTL Soir. On se retrouve juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.